30. Ils avaient dépassé l'orbite des astres principaux du système et plongeaient à présent entre les deux planètes les plus extérieures, de sorte qu'il n'y avait plus autour d'eux de masse significative dans un rayon inférieur à 1,5 milliard de kilomètres. Devant eux s'étendait le vaste nuage cométaire, insignifiant du point de vue gravitationnel. L'étoile lointaine avait accéléré jusqu'à une vitesse de 0,1 c, un dixième de celle de la lumière. Trévise savait bien qu'en théorie le vaisseau pouvait être accéléré quasiment jusqu'à celle-ci, mais il savait également qu'en pratique 0,1 c constituait une limite raisonnable. À cette vitesse, il convenait d'éviter tout objet de masse appréciable, mais il était impossible d'esquiver les innombrables particules de poussière errant dans l'espace, et dans une plus grande mesure encore, les atomes individuels et les molécules. Aux vitesses extrêmes, même d'aussi infimes objets pouvaient endommager, éroder, érafler la coque du vaisseau. Aux vélocités avoisinant celles de la lumière, chaque atome percutant la coque aurait les propriétés d'une particule de rayon cosmique. Soumis à un tel bombardement pénétrant, nul être à bord n'y survivrait longtemps. Les étoiles lointaines ne trahissaient aucun mouvement perceptible sur l'écran de visualisation. Et bien que l'astronef évoluât à 30 000 km par seconde, tout laissait croire qu'il était immobile. Jusqu'à de grandes distances, l'ordinateur scrutait l'espace à la recherche d'éventuels objets de petite taille, mais non moins conséquents sur une trajectoire de collision avec le vaisseau, et déroutait légèrement celui-ci pour les éviter, au cas hautement improbable où la chose se révélerait nécessaire. Entre la taille réduite de l'éventuel objet, la vitesse à laquelle il était croisé et l'absence d'inertie pour trahir le changement de cap, rien ne pouvait indiquer qu'on l'avait ou non échappé belle. Trévise, par conséquent, ne se préoccupait guère de tels détails, ou du moins n'y prêtait qu'une attention distraite. Il se concentrait entièrement sur les trois jeux de coordonnées que lui avait fournis Deniador, et en particulier sur celui correspondant à l'objet le plus proche d'eux.
« Y aurait-il quelque chose qui cloche dans ces chiffres ?»
sentit Pellorat anxieux. « Je ne saurais encore dire. Les coordonnées par elles-mêmes sont sans utilité tant qu'on ne connaît pas leur point d'origine et les conventions utilisées pour les calculer. La direction à partir de laquelle calculer les distances, l'équivalent pour ainsi dire d'un méridien d'origine, et ainsi de suite.
« Comment allez-vous trouver tout cela ?»
demanda Pellorat interdit. « J'ai obtenu les coordonnées de Terminus et de quelques autres points connus relativement à Comporellon. Si je les rentre dans l'ordinateur, il me calculera quelles doivent être les conventions à appliquer si l'on veut localiser correctement Terminus et les autres sites. J'essaie simplement d'organiser les choses dans ma tête pour être en mesure de programmer convenablement la machine. Une fois déterminées les conventions, les données que nous avons pour les mondes interdits pourront alors éventuellement signifier quelque chose.
Éventuellement seulement ?
Éventuellement seulement, j'en ai peur, dit Trévise. Ce sont des chiffres anciens, après tout. Sans doute d'origine comporélienne. Mais ce n'est pas absolu. Supposez qu'ils soient basés sur d'autres conventions.
Eh bien ?
Eh bien, nous n'aurons alors que des chiffres dépourvus de signification. Mais à nous de savoir trouver. Ses mains coururent sur les touches doucement éclairées de l'ordinateur pour entrer les informations nécessaires. Puis il les plaça sur les emplacements idoines de la console. Il attendit, tandis que la machine déterminait les conventions des coordonnées connues, marquait une pause, puis interprétait les coordonnées du monde interdit le plus proche selon les mêmes conventions pour finalement les reporter sur la carte galactique qu'elle avait en mémoire. Un champ stellaire apparut sur l'écran, évoluant rapidement pour s'ajuster. Une fois calé, il s'agrandit. Hémorragie d'étoiles débordant dans toutes les directions, jusqu'à disparaître presque toutes. À aucun moment, l'œil n'aurait été capable de suivre ce rapide changement. Tout s'était passé dans un brouillard tacheté, jusqu'à ce qu'enfin ne subsistât qu'un espace d'un dixième de parsec de côté, s'il fallait en croire l'échelle sous l'écran.
Il n'y eut pas de nouveaux changements. Seule une demi-douzaine de faibles points lumineux égayaient à présent l'obscurité de l'écran.
« Lequel est le monde interdit ?»
demanda doucement Pellerat. « Aucun, » répondit Trévise. « Quatre de ces points sont des naines rouges. Le cinquième, une naine quasi rouge, et le dernier, une naine blanche. » Aucune de ces étoiles ne pourrait avoir un monde habitable en orbite autour d'elle.
« Comment savez-vous que ce sont des naines rouges rien qu'à les regarder ?»«
Nous ne contemplons pas les étoiles réelles. Nous contemplons une section de la carte galactique stockée dans la mémoire de l'ordinateur. Chacune d'elles est étiquetée. Vous ne pouvez pas le voir, et d'ordinaire moi non plus. Mais tant que mes mains établissent le contact, comme c'est en ce moment le cas, je suis mis au courant d'une quantité considérable de données concernant chacun des astres sur lesquels se portent mes yeux.
« Alors, » dit Pellerat abattu, « les coordonnées sont inutiles. »
Trévise leva les yeux sur lui. « Non, Janoff. Je n'ai pas terminé. Il reste encore la question du temps. » Les coordonnées du monde interdit remontent à 20 000 ans. Depuis cette époque, la planète et Comporellon ont l'une et l'autre tourné autour de l'axe de la galaxie. Et il est fort possible que leur rotation s'effectue à des vitesses différentes et selon des orbites d'inclinaison et d'excentricité différentes. Avec le temps, par conséquent, les deux astres peuvent s'être rapprochés ou éloignés. Et en l'espace de 20 000 ans, le monde interdit peut fort bien s'être écarté de n'importe quelle valeur entre 1/2 et 5 parsecs des coordonnées initiales. Il ne risque certainement pas d'apparaître dans ce cube d'un dixième de parsec.
Que fait-on alors?
On demande à l'ordinateur de faire reculer la galaxie de 20 000 ans dans le temps, relativement à Comporellon.
Il peut faire ça?
Demanda Joie d'un ton passablement sidéré. « Eh bien, il ne peut pas faire reculer dans le temps la galaxie elle-même, mais il peut faire reculer la carte qu'il a en mémoire. »«
Verrons-nous quelque chose se produire ?»«
Regardez plutôt, » dit Trévise. Très lentement, la demi-douzaine d'étoiles se mit en branle sur l'écran.
Une nouvelle étoile fit soudain son apparition depuis le coin gauche et Pellerat pointa le doigt tout excité. « Là, là !»«
Désolé, » dit Trévise. « Encore une naine rouge. Elles sont très répandues. Et les trois quarts au moins des étoiles de la galaxie sont des naines rouges. »
L'image finit par se stabiliser. « Eh bien ?»
demanda Joie. « Nous y sommes. Voici la vue de cette portion de la galaxie telle qu'elle était il y a 20 000 ans. Au centre même de l'écran se trouve le point où le monde interdit aurait dû se trouver s'il avait dérivé avec une vélocité moyenne.
Aurait dû,
mais ne s'y trouve pas, remarqua Joie, acide. Certes, admit Trévise avec un remarquable manque d'émotion. Pellerat laissa échapper un gros soupir.
Oh! C'est vraiment pas de veine, Golan.
Attendez. Ne désespérez pas. Je ne m'attendais pas à découvrir notre étoile ici.
Ah bon?
Demanda Pellerat surpris. Non. Je vous ai dit que ce n'était pas la galaxie elle-même que nous contemplions, mais la carte de celle-ci établie par l'ordinateur. Si une étoile réelle n'est pas portée sur la carte, nous ne la voyons pas. Si la planète est qualifiée d'interdite, et qu'elle l'est depuis 20 000 ans, il y a des chances qu'elle n'apparaisse pas sur la carte. Et c'est bien le cas puisque nous ne la voyons pas.
Il se pourrait aussi qu'on ne la voie pas parce qu'elle n'existe pas, remarqua Joie. Il se pourrait que les légendes comporelliennes soient fausses, ou les coordonnées erronées.
Tout à fait exact. L'ordinateur, toutefois, est à présent en mesure d'estimer quelles devraient être les coordonnées actuelles, maintenant qu'il a localisé l'endroit où l'astre aurait dû se trouver il y a 20 000 ans.
Avec l'aide de ces coordonnées corrigées de la dérive temporelle, une correction que je ne pouvais faire qu'à l'aide de la carte galactique, nous pourrons dès lors basculer sur le champ stellaire réel de la galaxie.
Mais, remarqua Joa, vous avez simplement supposé au déplacement du monde interdit une vélocité moyenne. Et si ce n'était pas le cas, vous n'auriez plus les coordonnées correctes.
Tout à fait exact. Mais des coordonnées corrigées d'une dérive temporelle affectée d'une vélocité moyenne seront presque à coup sûr plus proches de la position réelle que sans correction du tout.
C'est ce que vous espérez,
dit Joa dubitative.
Tout juste, dit Trévise. J'espère.
Et maintenant, regardons un peu la galaxie réelle. Les deux spectateurs regardaient attentivement, tandis que Trévise, peut-être pour réduire sa tension et retarder l'instant crucial, parlait à voix basse, presque comme s'il faisait une conférence.
« Il est plus difficile d'observer la galaxie réelle, »
expliqua-t-il.
« La carte de l'ordinateur est une construction artificielle avec la capacité d'éliminer les détails non pertinents. Si une nébuleuse obscurcit le champ, je peux l'enlever. » Si l'angle de vision n'est pas adapté à ce que je recherche, je puis le modifier, et ainsi de suite. En revanche, la véritable galaxie, je dois la prendre telle qu'elle se présente. Et si je désire un changement, je suis obligé de me déplacer physiquement dans l'espace, ce qui exigera bien plus de temps que pour modifier une carte.
Tandis qu'il parlait, l'écran révéla un nuage stellaire si riche en étoiles qu'il ressemblait à un tas de poudre irrégulier. Trévise poursuivit.
Voici, vue sous un grand angle, une section de la Voie lactée. Je désire en avoir le premier plan, bien entendu. Si j'agrandis celui-ci, l'arrière-plan aura tendance à s'effacer en comparaison. Le point défini par les coordonnées est assez proche de Comporellon pour que je sois en mesure de l'agrandir à peu près jusqu'à la situation que m'offrait la carte. Le temps d'entrer les instructions nécessaires, si je suis capable de garder jusque-là, ma santé mentale.
Voilà.
Le champ stellaire s'agrandit d'un seul coup, chassant des milliers d'étoiles de tous les côtés, et donnant aux spectateurs une si vivace impression de plongeon vers l'écran que tous trois reculèrent machinalement, en réaction à ce vertigineux bond en avant.
La vue précédente revint, pas tout à fait aussi sombre que lorsqu'il s'agissait de la carte, mais avec la demi-douzaine d'étoiles disposées comme sur l'image initiale. Et là, tout près de son centre, se trouvait une autre étoile, bien plus brillante que les autres.
« La voilà !»
dit Pélorate, avec un murmure respectueux.
« Ça se pourrait.
Je vais demander à l'ordinateur de relever son spectre, et de l'analyser. » Il y eut une pause notable, puis Trévise annonça « Classe spectrale G4, ce qui la rend un poil plus pâle et plus petite que le soleil de Terminus, mais notablement plus brillante que celui de Comporellon. Et la carte galactique ne devrait pas omettre une seule étoile de classe G. Puisque celle-ci en est une, voilà qui suggère fortement qu'il pourrait s'agir d'un soleil autour duquel orbite le monde interdit.
« Est-il possible ?»
demanda Joie.
Qu'il apparaisse en fin de compte qu'aucune planète habitable ne tourne autour de cette étoile?
C'est possible, je suppose. En ce cas, nous essaierons de retrouver les deux autres mondes interdits.
Joa persévéra. Et si les deux autres sont également des fausses pistes?
Eh bien, nous essaierons autre chose.
Par exemple?
Je voudrais bien le savoir,
reconnut Trévise, lugubre.